Comme ça, ça va? Alors, tout au long de cette année, nous déplions la durée des analyses, ces raisons. Alors, les analyses lacaniennes, vous avez déjà entendu dire plusieurs fois, elles durent longtemps, car elles sont orientées vers le réel qui permet de dénouer le symptôme. Alors, je vais passer tout de suite la parole, d'abord à Claire, parce qu'elle déplie les butées sur le réel, cause du temps qu'il faut pour réaliser l'impossible à dire. Réel dont Nadine vérifie le retour de la contingence traumatique d'origine. Claire donne les raisons de la durée. Nadine, ce qui a résonné au sens de l'équivoque de la résonance, dans le moment de hâte de la sortie du transfert. Alors, donc je passe la parole à Claire. Ah ben, je n'ai pas présenté d'abord, excusez-moi. Donc Claire, ben, je vais me présenter maintenant. Claire est psychanalyste à Paris et elle assure la délicate et difficile tâche de secrétaire du bureau de l'école. Alors, son titre, les butées sur le réel qui font durer la cure.
Un jour, je me suis allongée sur un divan, parfois portée par une frénésie compulsive, mais le plus souvent au prix d'un solide embarras. J'y ai ratiociné pendant près de 3 ans, 39 mois pour être précis, en y investissant de bout en bout une énergie monomaniaque, le farouche désir de bien faire et un rythme marathonien de 2 séances hebdomadaires de 45 minutes. Une fois déduites les vacances, j'aurais donc consacré quelques 200 heures à mes rêves, lapsus, souvenirs d'enfance, associations libres, fantasmes variés et phobies diverses. 200 heures, pourquoi le cacher ? Ce total me déçoit. 8 jours de vie humaine, à peine 6 semaines de bureau, 1 mois et demi de travail ordinaire pour accomplir un travail extraordinaire. J'aurais aimé une pointe d'excès, une somme autorisant la métaphore emphatique. Rien n'y fait, le résultat persiste tel qu'en lui-même. Mon analyse n'aura pas excédé ces 200 pauvres heures. Il faut donc me résoudre à cette évidence. D'un certain point de vue, ce travail si long, pénible parfois, répétitif toujours, n'aura guère passé sur ma vie qu'à la manière d'un zéphyr. Ces 200 heures m'effarent. Derrière moi, il me semble entendre mon analyste, sa voix basse légèrement outrée. « Mais pourquoi voulez-vous donc que votre analyse se chiffre en temps ?»« Oui, pourquoi ?» Ce court passage du livre de Bruno Tessarec, « La femme de l'analyste », pour introduire à la question de la durée des analyses, qui évidemment n'a rien à voir avec le temps de la montre pour ce qui est de la séance, ni non plus avec celui du calendrier pour ce qui est de l'analyse. Même s'il nous paraît évident qu'il ne s'agit pas d'une analyse menée à son terme, cette tentative de saisir, d'objectiver ce temps passé sur le divan revient souvent comme une tentative absurde et insensée, tant le temps dont il s'agit là est le temps de l'inconscient qui ne connaît pas le temps, pour citer Freud. C'est donc un temps incalculable dans tous les sens du terme. Cela dit, tout le monde s'accorde quand même à dire que ça dure longtemps, surtout la fin. Alors, qu'est-ce qui pourrait rendre raison de cette durée dont on se plaint peu au commencement de l'expérience, tout occupé au nouveau mariage, plus ou moins heureux, mais quand même exaltant, avec le défilé des significations. Les significations renvoyant toujours à d'autres, toujours plus loin, pour tenter de définir ce sujet en souffrance qui a fait l'option de la psychanalyse pour en savoir quelque chose sur ce qui l'agite. Premier temps, donc, comme le mariage avec l'amour du savoir, que l'on se plaît à faire durer pour sa dimension illusoirement heuristique qui apporte des satisfactions certaines. Satisfaction à déplier son histoire, les signifiants qui nous viennent de l'autre et qui nous déterminent, découvrir à quel point on en a été l'objet. Le temps ne paraît pas être un problème. On sait qu'on s'engage sur la durée, ce qui en fait reculer certains d'ailleurs qui disent ne pas vouloir commencer une analyse car ça dure trop longtemps, ça ne s'arrête jamais. On retrouve là une mise en tension entre la raison de sa durée et la raison de sa fin. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Combien de fois entend-on cette idée que l'analyse n'a pas de fin chez les personnes qui viennent nous voir ? Il se trouve face à ce paradoxe que le temps ne paraît pas long, mais avec cette crainte qu'il n'y ait pas de raison que ça s'arrête. Ce paradoxe dure le temps où le sujet se satisfait du déchiffrage de l'inconscient, langage par lequel il est nécessaire de passer. Là où le temps commence à paraître long, ce n'est pas quand le sujet rencontre le réel dans la cure, car il le rencontre dès le début, mais quand quelque chose fait qu'il ne se satisfait plus du déchiffrage, de la signification fuyant toujours vers une autre. Il ne s'en satisfait plus parce qu'après avoir fait un premier tour du tort, déroulant toutes ses demandes, le deuxième tour met en évidence le trou central de réel qui constitue le désir, ce qui l'oblige à prendre en compte sa propre position de jouissance. Il est revenu des idéaux qu'il puisait chez l'autre, des signifiants de l'autre qui ne suffisent plus à le définir, de sa plainte vis-à-vis de l'autre, et il ne peut plus ne pas prendre en compte ce réel qui est là depuis le début, mais qu'il n'a cessé de recouvrir de la signification phallique. Qu'est-ce qui fait que ça dure aussi longtemps ? Bien sûr, il y a le temps nécessaire au dépliage de la chaîne signifiante, jusqu'à isoler les signifiants maîtres et les idéaux et identifications qui y sont rattachés. Il y a aussi la satisfaction liée aux significations et à la course à la vérité. Mais la butée qui me semble la plus importante et qui fait paraître le temps long, c'est quand cette vérité, par son impuissance, débouche sur le réel, c'est-à-dire sur un impossible à dire. En effet, ce que vise l'analyse serait un discours qui ne serait pas du semblant, nous dit Lacan dans son séminaire du même nom. Bien sûr, ce discours se fonde d'un impossible, car tout discours se soutient nécessairement du semblant, puisqu'il procède du signifiant, y compris le discours analytique. Ce discours qui n'est pas fonctionne comme limite au discours analytique. Je cite « Ce qui s'indique ici n'est pas la limite, n'est que la limite imposée au discours quand il s'agit du rapport sexuel. » Lacan nous donne sa définition de ce discours, je cite « C'est de ce qu'un discours se centre de son effet comme impossible qu'il aurait quelque chose d'être un discours qui ne serait pas du semblant. » De se centrer de son effet comme impossible, c'est-à-dire de se centrer sur la jouissance comme effet de discours, sur le plus de jouir comme effet de discours, qui ne se saisit que dans l'émergence de l'inconscient, qui n'est lui-même que midi dans la structure langagière. La durée des analyses est en rapport avec ce dont il s'agit dans l'analyse, mettre en jeu un discours qui ne serait pas du semblant, c'est-à-dire qu'il ne se centre que de son effet comme impossible. Viser ces points de réel dans l'émergence de l'impossible à dire pour ce qui est de l'objet cause ou à écrire pour ce qui est du rapport sexuel. Comment y arrive-t-on alors que le névrosé a construit toute sa stratégie à les éviter, ces points de réel, à les recouvrir en s'accrochant en signifiant, à tout ce qu'il peut apporter comme signification et comme sens à l'existence ? En s'accrochant à toutes les identifications aliénantes venant de l'autre pour tenter de se définir dans le « tu es ». Comment renoncer à cette jouissance qui y est liée ? Le premier pas, pourrait-on dire, est qu'il vient en analyse parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette stratégie. Une brèche s'est donc ouverte. Mais jusqu'où acceptera-t-il d'aller y voir ? Chacun selon son désir, pour citer Lacan à propos de la conclusion, formule que l'on peut reprendre, à mon avis, tout au long de la cure. Sans vouloir minimiser la responsabilité de l'analyste dans la direction de la cure, la variable du sujet est présente tout le temps. Combien s'en vont, sans vouloir en savoir plus, à la suite des satisfactions phalliques obtenues grâce à la cure, comme une grossesse ou une rencontre amoureuse qui semblait ne jamais pouvoir arriver ? Je dis « grâce à la cure » car c'est bien un effet de la mise au travail qui a produit un bouger dans la jouissance et la relance du désir. Mais cela a suffi au sujet pour lever l'option. Les effets thérapeutiques peuvent parfois offrir des solutions prématurées qui font obstacle à la poursuite de la cure. Comme dit Louis Siskovitch de la revue du champ lacanien numéro 7, dans la solution prématurée, le symptôme, bien que réduit, ne parvient pas à s'élever au rang de non de jouissance du sujet. Ce sur quoi une analyse a débouché, selon Lacan, c'est sur le savoir d'un impossible. L'impossible du rapport sexuel qui est insupportable et que le névrosé a passé son temps et ses symptômes à recouvrir, à masquer, à faire exister envers et contre tout. Cela se déduit d'une analyse à travers notamment la vie amoureuse et la question qui s'y pose de façon cruciale du rapport avec le partenaire. En effet, de là surgissent des points de réel qui amèneront le sujet à déduire cet impossible, en passant par l'objet que l'on est et qu'on se fait être, le manque dans la structure, à travers la question de la femme, et du manque à jouir structural inscrit dans la relation au partenaire. Il faut donc le temps pour cerner l'objet qui se trouve dans le creux, dans le vide inséré par les tours de la demande et qui cause le désir. C'est le trajet que parcourt, par exemple, l'hystérique, partant de sa plainte d'être prise comme objet dans le rapport avec l'homme, objet de son désir. Elle refuse de se voir réduite à l'objet du désir de l'homme, alors que c'est précisément comme telle qu'elle rentre dans la loi sexuelle. Ce dont elle se plaint jusqu'à pouvoir s'y reconnaître dans une position de désir, être le phallus. Ce qui vient reposer autrement la question de son désir, qu'est-ce que je veux ? Et faire émerger pour elle l'impossibilité d'être satisfaite. Ce n'est jamais ça. Remettant la faute sur l'autre, le partenaire défaillant, quand la question ne le remet pas tout entier en cause dans un « est-ce le bon ?» qui se répète. Il faut le temps pour que le sujet saisisse en quoi c'est précisément de nourrir le cercle de l'insatisfaction ou de l'impossible du désir qui le fait consister pour lui, le poussant à toujours organiser du manque pour avoir quelque chose à désirer, jusqu'à ce que ce manque puisse être repris de son côté comme manque irréductible, structural, du fait de l'entrée dans le langage, et que l'objet cible de son désir devienne alors objet-cause. Il n'est plus ce après quoi il court, mais ce qui cause. Se dévoile ainsi son caractère indicible, irreprésentable. C'est la rencontre avec l'impossible à dire la cause de son désir, l'objet-cause de son désir. Dans son séminaire sur l'angoisse, Lacan déplie en quoi l'objet A est la part du vivant qui reste sur le corps dans son entrée dans le langage, interne au sujet et pourtant exclu, mais qui est aussi ce qui cause son désir du fait d'inscrire le manque dans la structure, de le faire manquant et donc désirant. Il faut le temps pour accepter ce réel de la castration que l'analyse a fait apparaître et la destitution subjective qu'elle produit, car ce n'est pas en tant que sujet qu'il désire, mais de cet objet A qui cause son désir. Grande est la tentation de rechuter dans la passion du signifiant, comme dit Lacan, qui vient recouvrir le réel de l'objet A. C'est ce qui se passe longtemps dans la cure, en cherchant ou bien à boucher par la série infinie des objets échangeables le trou qu'il produit, ou bien à le saisir par le langage dans l'espoir d'un jour pouvoir le dire, le faire passer au dit, alors qu'il ne fait que soutenir le dire. On voit là comment la question de l'objet présente au début revient dans les enjeux de la fin, mais ne se pose pas de la même façon. Puisque de l'objet de l'autre du début, c'est-à-dire défini par ses signifiants et pris dans son désir et sa jouissance, il s'agira de saisir à la fin quel objet on se fait être dans le fantasme, c'est-à-dire dépris des déterminations de l'autre, tout un trajet à parcourir et qui prend du temps. Parallèlement, dans le rapport au partenaire, se pose la question « qu'est-ce qu'une femme ?» Il faut le temps pour arriver au constat qu'il manque un signifiant dans l'autre pour dire ce que serait la femme et que l'autre est donc barré, manquant. Il faut en passer par la chute des identifications féminines qui ne proposent que des modèles imaginaires et non un repère symbolique qui dirait l'autre sexe. Il faut interroger cet appui pris sur une autre femme pour identifier son être et orienter son désir, qui serait un désir spécifiquement féminin, pour constater que le désir ne s'ordonne jamais que du phallus en termes de l'être ou de l'avoir. Il faut renoncer à obtenir une réponse de la mère à cette question sur la femme. C'est ce que nous indique Lacan dans L'étourdi quand il évoque, je cite, « le fait du ravage qu'est chez la femme, pour la plupart, le rapport à sa mère, d'où elle semble bien attendre, comme femme, plus de substance que de son père. » En effet, ce n'est pas de l'organon que possède l'homme, à quoi répondrait la gaine charmante, qu'elle attend une réponse à sa question « qu'est-ce qu'une femme ?» mais bien plutôt de la mère. Elle attend que cette dernière puisse lui transmettre quelque chose qui répondrait au phallus côté féminin, c'est-à-dire quelque chose élevé au rang de signifiant. C'est donc à elle qu'elle adresse sa plainte que rien ne vienne t'y répondre. Que ce soit dans la plainte que la mère n'est pas une vraie femme, ou bien qu'elle ne veut pas répondre aux questions, ou encore qu'elle est plus femme que mère et ne partage pas d'intimité avec sa fille, ou bien même la solution apparemment plus satisfaisante de la mère copine, toutes en arrivent à la conclusion qu'il y a un défaut de transmission de la mère à sa fille sur ce qu'est être une femme. Il faut du temps pour réaliser que la faute n'est pas du côté de la mère, mais du côté de l'autre du langage. C'est lui qui est manquant. Il n'y a pas dans la structure un universel qui écrirait « la femme ». Il faut du temps pour accuser réception de cette absence de réponse comme relevant d'un impossible. C'est donc au une par une que la solution doit se trouver, et il faut encore du temps pour lâcher cette tentation de scruter dans chaque de ces une par une un trait féminin auquel s'identifier encore, quoique imaginairement. La solution est singulière, à chacune de trouver son style. Il faut se résoudre donc au fait qu'il n'y a pas un autre principe qui dirait « la femme ». Elle ne peut s'orienter que par le phallus, mais elle n'y est pas toute. Ce qui ouvre à un ailleurs, une jouissance autre qui ne peut se dire, puisque pas dans le signifiant, toujours phallique. Une jouissance impossible à dire. Quelque chose qui ferait passer du « ce n'est pas ça » du névrosé à un « ce n'est pas tout ça », comme le dit Colette Solaire dans Hétérité numéro 6. La différence radicale réside dans le fait que l'on passe de l'insatisfaction foncière du névrosé pour tenter de soutenir le désir à une possibilité de satisfaction, phallique bien sûr, mais qui ne comble pas tout. Une part du sujet se satisfait ailleurs, silencieusement. Ceci change le rapport à la satisfaction, possible mais pas toute, ouvrant vers une jouissance supplémentaire. Un remaniement de la jouissance s'opère là. Mais qu'en dire de cette jouissance supplémentaire, puisque hors signifiant ? Comment l'attraper ? Tous les signifiants ne faisant que retomber dans la jouissance phallique. Il faut le temps pour prendre acte de l'impossible du signifiant à tout dire, à en dire quelque chose. Et donc aussi prendre acte des conséquences de S de Grand Tabaret, c'est-à-dire que l'autre est manquant, en renonçant à cette position de vouloir le combler, voiler sa castration. Passer de l'impuissance à le combler à l'impossible lié au manque de la structure. Il faut le temps pour conclure que de ce manque d'un signifiant qui dirait l'autre sexe, le rapport sexuel ne peut s'écrire. Il n'y a pas de deux qui fasse rapport entre les sexes, puisque côté femme, il n'y a pas une qui ferait exception pour fonder un universel de la femme. Une pour qui la fonction phallique ne fonctionnerait pas. C'est donc au titre d'une femme, du particulier, qu'elle peut remplir sa place dans le rapport sexuel, nous dit Lacan dans le séminaire 18. Et il ajoute qu'on a de tout temps essayé d'écrire un rapport sexuel, un rapport entre deux principes, un principe mâle et un principe femelle, le yin et le yang, une dualité qui dirait le rapport de l'homme et de la femme. Mais cette dualité n'est pas suffisante pour dire ce qui se passe entre les sexes, du fait de l'intrusion du phallus qui y fait obstacle. En effet, ce qui se découvre dans la cure, c'est que le phallus introduit un rapport à la jouissance qui oblige l'un et l'autre à en passer par lui. Il n'introduit pas une distinction mâle-femelle, mais un choix entre l'être et l'avoir, un choix que Lacan dit incompatible. Il n'y a donc pas de désir spécifiquement féminin qui se passerait du phallus. Les femmes sont dans la fonction phallique également, même si elles n'y sont pas toutes. On peut donc dire que le phallus n'écrit pas le rapport sexuel, il y objecte même. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les hystériques qui ne cessent de dénoncer le ratage à écrire un rapport entre les hommes et les femmes et de cette dénonciation en faire un étendard. Le rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s'écrire. Il faut le temps au sujet pour que de l'impuissance à faire rapport, il en conclue à l'impossible qui est de structure. C'est-à-dire, comme dit Lacan dans Radiophonie, que se produise, je cite, « le virage de l'impuissance imaginaire à l'impossible qui s'avère d'être le réel à ne se fonder qu'en logique ». Que ce soit à sa propre impuissance ou à celle de l'autre, toujours incapable de le satisfaire, le sujet s'accroche pour continuer à se plaindre et à espérer qu'un ailleurs existe, essayant ainsi de faire consister le rapport sexuel. Combien il lui est difficile de renoncer à cet idéal et à prendre acte de cet impossible. Cela ne peut pas se faire sans la chute de l'autre, la traversée du fantasme et un aperçu sur le patou. La chute de l'autre au sens où l'autre est barré et n'est pas une garantie qui soutient le sujet, ce qui change le rapport au partenaire réel ou potentiel. La traversée du fantasme dans le sens où de se saisir comme l'objet qu'on s'y fait être ouvre au fait que la jouissance est toujours partielle et qu'il n'y a rien à attendre de ce côté pour faire rapport sexuel. Ceci ouvrant une brèche vers le patou de la jouissance phallique. Ce n'est pas tout ça, il y a de la jouissance qui ne saurait être dite. Ce qui vient y suppléer, c'est la loi sexuelle, nous dit Lacan dans le séminaire 18, c'est-à-dire régie par le désir et l'interdit. Le rapport de l'homme et de la femme, en tant qu'il est radicalement faussé par la loi sexuelle, laisse quand même à désirer qu'à chacun il y ait à chacune. C'est une des raisons également, en l'absence de quelque chose qui vienne écrire un rapport, qui fait se reposer pour le sujet cette question déjà évoquée plus haut, est-ce le bon ? Qui peut se décliner ici en « est-on fait réellement l'un pour l'autre ?» Mais le névrosé préfère vaciller longtemps au bord de ce gouffre d'incertitude que de conclure à l'inexistence du rapport, à l'horreur de ce réel qu'il n'y a pas de chacun pour une chacune, pas de bon qui vaille. Ce qui vient le recouvrir, c'est l'idéal de l'amour, toujours insatiable, comme dit Lacan, la loi du désir et la jouissance du fantasme. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois cette inexistence aperçue, ces éléments de suppléance ne fonctionnent plus, bien au contraire. Mais le sujet n'y croit plus de la même façon. Que le fantasme fasse fonction de suppléance à l'inexistence du rapport sexuel met au centre l'objet A, ce qui a pour conséquence que la jouissance est toujours partielle. En effet, comme dit Lacan dans Radiophonie, je cite, « La jouissance dont il se supporte, le rapport sexuel, est comme tout autre articulé du plus de jouir, par quoi dans ce rapport le partenaire ne s'atteint qu'à l'identifier à l'objet A pour l'homme et au phallus imaginaire pour la femme. » Rien là qui puisse faire rapport, ni qui puisse déboucher sur une quelconque maturité génitale qui n'est qu'un idéal bâtard, selon lui. Il faut du temps pour que le sujet touche enfin à cette réalité que le corps ne s'apparie, que les corps ne s'apparient que par un symptôme de jouissance, c'est-à-dire une jouissance réglée par l'inconscient, comme dit Colette Solaire. Le symptôme implique donc le réel du corps. Et ce devant quoi le sujet recule dans cette affaire, c'est de prêter son corps comme lieu de la jouissance réglée par l'inconscient, c'est-à-dire la satisfaction où il entre comme objet joui par l'inconscient, le partenaire étant là l'instrument de cette jouissance toujours partielle, auto-érotique. C'est à cela que le névrosé refuse de prêter son corps, préférant rester dans une satisfaction purement fantasmatique, ou faire consister le désir en le maintenant comme insatisfait ou impossible. On comprend comment de toucher à ce réel-là met à mal l'idéal de l'amour qui avait également servi au sujet à faire suppléance à cette absence. Chute d'un idéal que le sujet a du mal à lâcher, préférant sans doute longtemps rester dans le miroitement de son illusion ou au contraire dans la plainte que l'autre ne fait pas tout ce qu'il faut pour y atteindre. Il s'agit pourtant de lâcher l'idéal sans renoncer à l'amour pour autant, comme on le voit dans le film de Lars von Trier, Nymphomaniac, où il est montré de la façon la plus crue comment la sexualité ne fait pas rapport. Elle est même utilisée par un petit groupe de filles comme une arme contre l'amour menteur. On est en guerre contre l'amour et leur devise, et de ne coucher qu'une seule fois avec le même partenaire et leurs règles. Mais cette devise ne fait pas longtemps lien social dans le groupe, puisque l'héroïne du film va se retrouver rapidement la seule à la porter. Cette dernière instaure un emploi du temps de ses amants qui se succèdent les uns aux autres, tous instruments remplaçables au service de sa jouissance. Chaque amant étant associé à un mode de jouissance particulier. Pas de lien social par la jouissance qui détruit le lien amoureux et familial. Elle reste profondément seule, autant dans sa jouissance que dans sa vie. De prendre le pas de rapport sexuel comme devise, elle en paye le prix fort de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir nouer la jouissance au désir et à l'amour. Elle ne fait que présentifier cette absence jusqu'à se détruire elle-même. Il faut le temps pour lâcher les significations et quitter le déchiffrage. Arrêter la course à la vérité qui avait animé le travail analytique. Prendre acte de cet aperçu sur la vérité menteuse, pour reprendre l'expression de Lacan. Telle cette phrase qui surgit suite au récit d'un rêve que je rapporte en séance. Je ne crois plus dans mes rêves. Découvrant là leur dimension de fiction. Je ne crois plus en ce qu'ils veulent me faire miroiter de vérité. Cette phrase renvoie d'une part à la façon dont l'inconscient trouve des subterfuges pour poursuivre son but. Elle est directement associée à ce qui se passait enfant, alors que j'avais mis en place une astuce pour me réveiller d'un cauchemar. Il se poursuivait dans la chambre. Je croyais être réveillée et le cauchemar continuait, ouvrant une fenêtre sur un mode de jouissance reconnu au cours de l'analyse comme prévalent. Subterfuge de l'inconscient pour que ça jouisse encore. D'autre part, ce « je ne crois plus dans mes rêves » renvoie également à la limite de la course à la vérité et à l'aperçu sur la dimension d'élucubration de l'inconscient, toujours prompte à produire des significations à l'infini. Au bout du compte, sa raison est plus dans le « ça jouit » que dans le sens. Même si de la vérité on ne sort jamais complètement, il s'agit de lui rendre sa place limitée par le réel. Il faut le temps pour épuiser le sens jusqu'à ce qu'il ne se réduise plus qu'à une flèche pointée vers le vide. Le hors-sens est notamment le hors-sens de la vie. À quoi ça sert la vie ? Question à laquelle le sujet s'est échiné à répondre de mille façons possibles, jusque et y compris dans un « ça ne sert à rien » déprimé. Il est si difficile à soutenir le hors-sens de la vie comme une ouverture sur le réel de la vie pure. Il faut le temps pour accéder à la dimension de jouissance de la langue dans les formations de l'inconscient que l'on a consciencieusement essayé de déchiffrer jusque-là, d'en sortir leur signification. C'est la répétition du lapsus réduit à son hors-sens qui amène l'analysant vers la sortie du transfert, nous dit Colette Solaire dans la revue du champ lacanien numéro 7. C'est cela qui pourra l'amener à conclure qu'il n'y a rien à savoir de déterminant sur le sujet du côté de l'autre. Pas d'autre qui sait, mais ça jouit. C'est précisément ce qu'illustre le rêve suivant qui se déroule chez l'analyste. Le rêveur entend qu'on rit dans la pièce d'un lapsus qu'il vient de faire, mais qu'il ignore. Il interroge donc l'analyste pour savoir ce qu'il vient de dire, mais ce dernier ne répond pas. Après une hésitation sur la raison de son silence, ne veut-il ou ne peut-il pas répondre ? Le rêve se conclut sur le constat de l'impossibilité de l'autre à répondre. Face à cet impossible qui rompt avec la course au sens, il ne reste que le rire. Ça jouit hors sens. Ce rêve opérera une coupure durable avec la signification. En effet, au principe de l'inconscient, pas de savoir qui fait sens et qui détient la véritable signification du sujet. Les formations de l'inconscient ne sont pas tant à prendre au niveau du sens que dans leur dimension de non-sens qui fait revenir le corps par la jouissance. Au terme, il s'agit de saisir de quelle façon ça jouit dans l'inconscient plutôt que de quel signifiant le sujet est défini, fabriqué, constitué. Épuiser le sens et le réduire, du signifiant à la lettre, du langage à la langue, de la construction oedipienne au fantasme et à l'objet A, et des formations de l'inconscient à déchiffrer, à la jouissance qui fait trou dans le sens. Épuiser les constructions de l'inconscient et ses fictions qui participent à l'embrouille pour procéder à une déconstruction qui sépare le sujet de l'autre dans un « ça jouit » qui donne sa véritable consistance au sujet. Ce qui fait durer la cure, donc, est que le principe de conclusion est insupportable. L'analyse débouche sur un savoir insupportable, savoir d'un impossible, d'où l'horreur de savoir. On passe donc d'un « ça dure longtemps parce qu'il n'y a pas de fin » que l'on a vu au début, au « ça dure longtemps parce que la fin ou ce qui la précipite est insupportable ». Changement de perspective donc. Qu'est-ce qui pousse le sujet à conclure, à prendre acte de ce réel, tant de fois aperçu, tant de fois recouvert par les significations, toujours phalliques ? Combien de fois cet aperçu, il en a fait un « je vois bien, mais quand même ». Combien d'aperçus que le savoir attiré d'une analyse n'est pas dans l'autre et de tentations à y croire quand même, d'oscillation et de volte-face. Qu'est-ce qui va arrêter l'oscillation et précipiter le franchissement ? Le temps pour comprendre qu'il n'y a rien à attendre du côté de l'autre pour se définir, pour donner une vraie consistance au sujet qui ne soit pas du semblant. Il faut du temps et des aperçus répétés sur ce réel pour que le sujet se décide à se définir seul et non à partir de l'autre ou des autres, selon ce qu'il est, c'est-à-dire selon son désir, ce qu'il se fait être comme objet, son mode de jouissance singulier, ce qu'il en a reconnu. Cela ne dépend donc pas d'un processus logique interne au déroulement de la cure, mais d'une décision du sujet qui peut ne jamais arriver. La question devient pour le sujet de saisir, au-delà du fantasme, son mode de jouissance propre qui fait suppléance au rapport sexuel, c'est-à-dire qui lui permet de faire lien avec le partenaire malgré tout, ce qui continue comme symptôme, comme son mode le plus singulier de jouissance, le lien au partenaire. Il s'agit de le reconnaître, de s'y reconnaître, comme ce qui le définit, en dehors de tout recours à l'autre, de toute aliénation aux signifiants et aux idéaux de l'autre. C'est précisément de pouvoir s'identifier à ça qui sépare le sujet de l'autre et qui rend possible le deuil de l'analyste qui avait déjà été mis à mal dans sa supposition de savoir. Dans l'étourdi, Lacan nous dit, je cite, « C'est d'autant que son deuil dure de l'objet A, auquel il l'a enfin réduit, que le psychanalyste persiste à causer son désir. » Plutôt maniaco-dépressivement. C'est-à-dire qu'après la chute du sujet supposé savoir, il lui faut encore faire le deuil de l'objet, et puis le deuil s'achève, poursuit Lacan, permettant une séparation d'avec l'analyste, la présence de l'analyste, non sans une certaine satisfaction d'avoir mis un terme au mirage de la vérité. Pour conclure, je reprendrai juste ces deux phrases qui n'ont cessé de scander mon texte. Le temps paraît long, mais il faut le temps pour. En effet, on voit comment le temps paraît long, surtout la fin qui n'en finit pas de finir, quand on entre dans un temps qui ne se satisfait plus du déchiffrage, dont on a aperçu la vanité, et que l'on bute sur l'émergence insistante du réel. Mais d'un autre côté, il faut le temps pour se faire à ce réel et accepter l'insupportable de la conclusion et la séparation d'avec l'autre.
Merci.